Comme l'information oblige, vous nous suivez depuis Kinshasa. Il est exactement 18h et 19h si vous êtes dans la chefferie de Rutuku, à Kalemi, dans la province du Tanganyika.
Radio Kapi.
À la présentation du journal, Lievin Mwinga.
Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Radio Kapi à la une de l'actualité de ce soir. Matérialisation des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda, le Sénat congolais s'y penche. Pour preuve, le président de la Chambre haute du Parlement est à Paris depuis hier mardi. Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec son homologue français Gérard Larcher. Plus de 800 sacs de riz blanc engloutis dans les eaux de la rivière Lomami dans le territoire d'Opala. Cela à la suite du naufrage d'un bateau en partance de ce territoire de la Tchopo pour Kisangani. À la base, la surcharge, expliquent les autorités provinciales. Notre invité, le professeur Deogracias Mundenga, directeur général de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires. Il va nous parler de la production agricole de son champ expérimental au Maniema. Nous allons découvrir ses transformations dans quelques minutes. Encore une fois, bonsoir. Matérialisation des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Le Sénat congolais s'y penche, je le disais tantôt. Pour preuve, le président de la Chambre haute du Parlement est à Paris depuis hier mardi, à la tête d'une délégation de quelques sénateurs et sénatrices, notamment le président des commissions relations extérieures, Christophe Lutundula, et de la Défense, Sécurité et Frontières, Joseph Mpanda. Jean-Michel Samalou Kondé a échangé hier même avec son homologue français, Gérard Larcher, au palais de Luxembourg à Paris sur la situation sécuritaire et humanitaire grave provoquée par la guerre et la violation de l'intégrité territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et le M23 AFC. On écoute les propos de Jean-Michel Samalou Kondé, choisi par Michel Kifindangoy.
Nous sommes d'abord revenus sur la question principale de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous sommes venus faire ici, après d'abord la résolution 2773, qui a été votée à l'unanimité sous la plume de la France, allant dans les condamnations du Rwanda et de ses supplétifs et de ce qui se fait en République démocratique du Congo à l'est. Après ces échanges, nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires, pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Parce que nous pensons que c'est l'une des voies qui va nous permettre d'arriver finalement à la résolution de ces conflits, tels que ça nous est dicté par les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, que ce soit l'Union africaine, la SADC, l'EAC, l'ONU, et même ici, ce que nous avons reçu, bien que nous ne faisons pas partie, de l'Union européenne, qui est venue aussi en appui aux sanctions qui ont été données.
En ce qui concerne la guerre, de nouveaux combats opposent depuis tôt ce mercredi une coalition de groupes armés Wazalendo aux rebelles du M23 près du chef-lieu du territoire de Walikale au nord Kivu. Selon nos sources sur place, les combattants Mai Mai ont attaqué vers 5h du matin les rebelles du M23 dans le village Kampala Bulambo. C'est dans le groupement Bakusu, secteur de Wanyanga. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Selon nos sources, la situation devient de plus en plus inquiétante autour de Walikale où depuis 3 jours maintenant, les attaques des VDP Wazalendo se multiplient dans les alentours de ce territoire du Nord Kivu. Et puis plaidoyer pour 3 députés provinciaux du Nord Kivu, ils viennent de passer plusieurs mois en détention à Kinshasa sans comparaître, déplore un acteur politique de Lubero. Alain Siwako, élu de Lubero, Alain Aliongera, élu du territoire de Walikale et Hop Sabini de Rutshuru ont été arrêtés respectivement entre 2022 et fin 2023. Ceci à la suite de leurs propos critiques envers l'état de siège institué dans les 2 provinces de l'Est. Le député provincial honoraire plaide auprès du président de la RDC en faveur de son implication pour leur libération. Les propos d'Eze Kanendu sont recueillis ici par Bernard Denyang.
Ces acteurs politiques et animateurs de la société civile ont été arrêtés à Goma avant d'être transférés à Kinshasa et suite d'avoir critiqué l'inefficacité de l'état de siège. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais été présentés devant leur juge naturel afin de connaître leur sort. Ils sont au total 2 collègues députés provinciaux de la législature de 2018 et 1 réélu à la législature de 2023, arrêtés de suite d'avoir extériorisé imposer leur opinion politique. Cette situation sonne les glaces aux principes démocratiques et à l'état de droit prôné par les chefs de l'État. C'est pourquoi nous sollicitons encore une fois l'implication personnelle du chef de l'État pour que ses compatriotes puissent recouvrer leur liberté.
Rien n'a changé du côté de Djougouan-Litouri. La situation sécuritaire est toujours volatile ce mercredi à Fataki et Djaïba, deux entités de ce territoire théâtre des affrontements entre la milice Codeco et l'armée ougandaise déployée dans la zone depuis la semaine dernière. Des sources sécuritaires renseignent que ces miliciens ont attaqué mardi une position des FRDC après avoir mis le feu à plusieurs maisons abandonnées par les habitants. D'autres détails avec Jean-Claude Lecky Dillé.
D'après nos sources, mardi, aux environs de 12 heures locales, la MONUSCO a été alertée par des tirs nourris et des mouvements suspects près de Djaïba, où se trouve un site de déplacés. En réponse, une patrouille de casques bleus a été déployée dans la zone. Sur place, les patrouilleurs ont constaté un échange de tirs entre les soldats des FADC et des miliciens de la Codeco qui tentaient une incursion. En collaboration avec les FRDC, les casques bleus de la MONUSCO ont sécurisé la zone, ce qui a obligé les insurgés à battre en retraite. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. On signale cependant l'incendie de maisons abandonnées par des habitants qui ont quitté cette zone, cette entité, pour se mettre à l'abri dans d'autres endroits sécurisés, notamment à Boulé, une entité proche. Dans le cadre de son mandat de protection des civils, les soldats de la paix onusiens, en appui au FRDC, restent en état d'alerte, suivant de près l'évolution de la situation sur le terrain. Bounia, Jean-Claude Lecky, Dillé, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi cette perte immense pour la population d'Opala dans la Tchopo. Plus de 800 sacs de riz blanc engloutis dans les eaux de la rivière Lomami dans le territoire d'Opala. Cela à la suite du naufrage de la baleinière Libende. L'accident s'est produit hier mardi à 2 km de ce territoire de la Tchopo lorsque cette embarcation a quitté le beach pour se rendre à Kisangani. Selon les premières informations reçues de l'autorité territoriale, l'excès du tonnage serait la cause principale de cette catastrophe. Jacques Moukonkole.
Outre les produits agricoles, notamment plus de 800 sacs de riz, cette baleinière transportait également à son bord un certain nombre de passagers en partance pour Kisangani. Ceux-ci n'ont pas pu atteindre leur destination finale à cause du naufrage de l'embarcation. Celle-ci se retrouve dans les eaux profondes de la rivière Lomami alors qu'elle était à son deuxième voyage après son inauguration. D'après l'administrateur du territoire Médard Elongué, qui cite Madame la chargée des opérations fluviales d'Opala, la surcharge de la baleinière serait à l'origine de cet accident.
La soudure n'a pas été à la hauteur, donc il fallait renforcer la soudure parce que c'est une baleinière en métal. Vu le nombre de sacs, le tonnage, finalement, la soudure a cédé et cela a créé une sorte de naufrage.
Malgré les dommages matériels enregistrés, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Tous les passagers ont été secourus, précise l'administrateur du territoire d'Opala. Néanmoins, il craint les conséquences économiques de cet accident sur le marché local. Le riz d'Opala est en tout cas le plus prisé de toutes les autres céréales de la région. Sa carence éventuelle sur le marché est un coup dur pour de nombreux ménages, déclare un acteur de la société civile locale. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Présentation des présumés bandits ainsi que quelques biens volés au gouverneur du Haut-Katanga par le commissaire provincial de la police, c'était hier mardi à Lubumbashi. Ainsi, le gouverneur Jacques Kiabula a encouragé la police à faire encore plus pour mettre hors d'état de nuire tous les malfrats. Il a aussi promis d'envoyer tous ceux qui seront condamnés dans d'autres prisons du pays, car parmi ces présumés bandits se trouvent plusieurs repris de justice. Des précisions avec Jean Gandou.
Ces présumés bandits, 28 au total, dont deux femmes, ont été pour la plupart arrêtés au quartier Bel Air, non loin du camp Major Vangou, dans la commune de Kampemba à Lubumbashi. D'après la police, parmi eux se trouvent 7 repris de justice. Ils sont auteurs de plusieurs forfaits, dont les tueries et le vol. Ils seraient impliqués dans la mort d'un motocycliste à Kamasaka, dans la commune annexe à Lubumbashi, et dans celle d'autres taximens moto dans la ville de Likasi. Parmi les biens volés et récupérés par la police, il y a notamment les appareils électroménagers et 3 véhicules. Un des véhicules a été volé en Zambie et c'est au moyen de GPS qu'il a été retrouvé dans la parcelle d'un des présumés bandits arrêtés. Et c'est justement là que les deux autres véhicules recherchés par la police étaient cachés. Les deux femmes rachètent et recueillent les biens volés. Les autres présumés bandits sont aussi auteurs de plusieurs méfaits à travers la ville. Notons qu'au mois de janvier dernier, ces 7 repris de justice étaient encore une fois de plus présentés au gouverneur des provinces. Voilà pourquoi Jacques Kiabula a demandé à la justice de bien jouer son rôle pour que la ville soit débarrassée de tout tous ceux qui mettent en mal la quiétude de la population.
Nous allons demander à ce que la justice puisse agir sans complaisance et que les fautifs soient jugés, condamnés et qu'ils soient placés en prison.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, le projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix évolue bien, mais il y a encore beaucoup à faire pour sa consolidation afin de passer à la phase suivante. Ce mercredi, différents acteurs impliqués dans ce projet se sont réunis pour faire une évaluation à mi-parcours de sa phase 2 afin de mieux protéger l'étape suivante. Parmi les défis à relever pour mieux implémenter ce projet, il faut notamment augmenter le nombre de policiers. Ce projet appuyé par la coopération japonaise JICA, l'OIM et ONU Habitat est expérimenté dans 3 provinces, Kinshasa, le Congo central et le Tanganyika. À Kinshasa, c'est la commune de Kimbanseke qui a été choisie comme commune pilote. Explication avec Étienne Lissumbu.
Pour le ministre provincial de l'éducation, ancien bourgmestre de Kimbanseke, un des pionniers du P4P, ce projet porte déjà des bons résultats dans les 3 quartiers où il est expérimenté. Mais il faut encore l'étendre.
On a pu implanter dans 3 quartiers dans un premier temps, à Kamba Mulumba, Webo et en Ferrin Swambanza. Je vous assure que depuis qu'ils sont là et avec la nouvelle mentalité qu'ils ont implantée sur place dans certaines zones proches, nous avons constaté que non seulement il y a harmonie aujourd'hui, mais les gens commencent à comprendre le rôle de la nouvelle citoyenneté.
Parmi les recommandations formulées par les partis en termes de défis, le général Alongobuni, commissaire général de la police, cite ceci.
Les défis sont nombreux, notamment le sous-effectif des policiers. Le deuxième défi à relever, ce sont les infrastructures. Parce qu'une police, pour qu'elle soit respectable, doit avoir un poste de police présentable et que la police rassure la population. C'est un autre défi. Et tout cela passe par la formation.
Madame Furuta, conseillère en chef de ce projet pour la JICA, salue la de tous les partenaires. Elle les appelle à plus d'engagement pour sa réussite.
Votre expertise et votre engagement restent indispensables pour franchir les prochaines étapes avec succès.
La deuxième phase de ces projets se clôture en septembre prochain.
Le reportage est signé Benjamin Moudoumbi. La journée sectorielle sur les mines a vécu en Mbujimayi, thème choisi, mines, résilience et développement à l'est de la RDC, ainsi que les conséquences du génocide sur la femme. Une journée organisée par l'agence de communication dénommée RSE, qui veut dire responsabilité sociétale des entreprises. C'était à l'hôtel Gloria de Mbujimayi. Cette journée a connu la participation de quelques directeurs des entreprises publiques, dont notamment le directeur général de la société minière de Bakwanga, Miba, et celui de l'Office congolais de contrôle, Esther Dalafina, pour le reportage.
Au cours de cette journée, plusieurs thèmes ont été développés à l'intention des participants. Docteur Prudence Massingou de la MIBA a parlé du réchauffement climatique, mines, guerre et santé.
Le temps des guerres, il y a des gaz qui sont émis avec les obus qui contribuent au réchauffement climatique. Il y a aussi l'exploitation minière, artisanale, qui contribue aussi au réchauffement climatique par l'émission des gaz à effet de serre. Voilà pourquoi nous avons choisi ces sujets pour parler des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé.
Parmi les participantes, Scholastique Kabongo a apprécié le thème sur l'assainissement.
Les dames médecins nous ont vraiment donné comment nous comporter pour arriver à assainir nos milieux et regarder notre bonne santé.
Parmi les responsables des entreprises, les directeurs adjoints de l'Office congolais de contrôle OCC et les directeurs généraux de l'AMIBA ont rehaussé de leur présence à cette activité. Les raisons sont simples, d'après Mouchia Kabeya, directrice générale RSC.
Même nous, les femmes, on a des questions à poser aux hommes. Donc, on aime quand l'homme aussi participe.
Signalons que cette activité est la deuxième du genre organisée dans la province du Kasaï oriental. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Hors de nos frontières, précisément au Niger, le général Abdourahmane Tiani est officiellement investi président pour 5 ans renouvelables. Le général Tiani, qui a également été élevé au rang de général 5 étoiles, a salué dans son discours un nouveau départ pour le Niger. Cette cérémonie a aussi donné lieu à la signature des ordonnances, notamment celles portant sur la dissolution des partis politiques et l'amnistie de prisonniers politiques et militaires.
L'invité.
Notre invité est le professeur Deogracias Mudbumundenga, directeur général de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires. Il nous parle de la production agricole, de son champ expérimental à la saison A, ses productions qui sont transformées et commercialisées en faveur de la population locale. Ainsi, l'ICEAV plaide pour avoir plus d'espace pour bien mener ses activités. Le directeur général de l'ICVAP, Manima, professeur Deogracias Mundenga, s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Professeur Deogracias Mundenga, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous avez procédé à la récolte de votre champ expérimental de l'ICIAV. Dites-nous à combien est évaluée cette production.
Madame, pour le moment, je ne peux pas vous donner avec précision en termes de poids, en termes de nombre de sacs, ce que nous avons fait, parce que la récolte est progressive. Il y a une partie qui se trouve encore au champ, une autre partie est en train d'être séchée. Donc, j'ai saisi cette opportunité pour vous dire que, à part les maïs, en tout cas, l'ICIAV est aussi dans la culture d'artémisia et même de soya.
Comme vous êtes dans d'autres cultures, monsieur le professeur, avec toutes ces récoltes, qu'est-ce que vous faites avec ça?
Bon, quand on récolte, c'est pour servir. Vous savez très bien que la province du Maniema a un taux pas négligeable de malnutrition. Le maïs, par exemple, peut servir à ça, à nourrir les enfants surtout et les personnes de troisième âge. On peut les nourrir. Il y a aussi l'artémisia que les gens consomment comme tisane. Ça aide dans la reconstruction de leur santé et de même que le soya. Donc l'ICEAV fait un effort pour participer à la lutte contre la malnutrition et au bien-être alimentaire finalement.
Alors quand vous avez donné votre prémisse au gouverneur, pour qu'il en fasse quoi avec?
Bon, d'abord je voudrais vous dire que c'est tout est parti de notre participation à l'atelier en rapport avec la relance de l'agriculture. C'est à cette occasion-là que j'avais promis à son excellence monsieur le gouverneur de venir présenter un échantillon de nos prémisses de maïs. Et c'est là, c'est pas pour rien, c'est parce que son excellence monsieur le gouverneur a un vaste projet de relance de l'agriculture de la province du Maniema et c'est pour cela que nous sommes dit, nous présentons ça à son excellence pour lui montrer que l'ICEAV Maniema est vraiment à côté de lui pour la réalisation, pour la matérialisation de son projet de relance de l'agriculture. Donc le choix n'était pas un choix irréfléchi.
Alors, monsieur le professeur, quand vous avez une grande quantité de maïs, une grande quantité d'artémisia, de soja, vous ne procédez pas à la transformation de toutes ces récoltes et voire même commercialiser ça?
Oui, je pense que l'ICEAV, Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires, respecte toutes les étapes. Après la récolte, l'ICEAV avait fait un effort pour la transformation et finalement avec le maïs par exemple, nous sommes dans la phase de commercialisation. Il en est de même avec l'artémisia et le soja, nous avions sémé, nous avions récolté et nous avions transformé. L'artémisia par exemple, nous avons mis en circulation des sachets, des tisanes pour la consommation en faveur de la population. Nous avons aussi avec le soya transformé cela en poudre de soya consommable de plusieurs manières et même le maïs, j'en avais déjà parlé.
Alors, monsieur le professeur, qu'est-ce que l'ICEAV envisage après cette phase expérimentale?
Oui, vous avez bien trouvé, phase expérimentale. Nous envisageons maintenant d'étendre nos activités. Vous savez, la première chose, c'est la superficie. La superficie que nous avons pour le moment, elle est trop petite. Et cela, nous l'avons hérité ainsi et nous sommes en train de toquer à des portes pour pouvoir trouver de l'espace où nous pouvons évoluer. Et de cela, nous devons aussi faire un effort pour trouver une main d'œuvre qui pourra nous aider ici dans tous les travaux ayant trait à l'agriculture. Et ça pourrait être aussi un avantage pour la population parce que ça, c'est une façon de lutter aussi contre le chômage. Vous voyez que l'ICEAV, dans tout ce qu'il fait, il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que le corps, mais il y a aussi de l'emploi.
Quelles sont alors les prévisions de l'ICEAV en termes de quantités?
Ah, en termes de quantité, nous voudrions, pour les années à venir, essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons satisfaire à la demande de la population. Pour le moment, la quantification n'est pas encore là, parce que nous sommes en train d'élaborer maintenant notre plan quinquennal, et c'est dans ce plan quinquennal que nous allons tout estimer. Mais pour le moment, l'idée globale est que nous puissions participer de façon tout à fait satisfaisante à l'alimentation de la population du Maniema, derrière les efforts de notre gouverneur.
Professeur Deogracias Mundenga, Merci.
Merci beaucoup, madame.
Voilà, c'est sur l'ICA et ses produits agricoles que nous bouclons ce journal. Merci de votre attention. Merci également à Pélé Kipela Mondo, à Billy Landry Betou. Excellente soirée à toutes et à tous.